référendum. 10h, 11h, Philippe David.
Le grand référendum, c'est jusqu'à 11h en direct sur Sud Radio. Un coup de boost pour la France. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous donner votre avis. Nous attendons vos appels au 0826 300 300 ou vos commentaires sur sudradio.fr.
Et exceptionnellement, avant d'introduire le débat, je vais lire un droit de suite. Suite à l'émission d'hier consacrée aux OGM, où on avait parlé du blocage de l'usine Saipol à 7, je vais vous lire un communiqué que nous avons reçu. Donc, suite à l'évocation faite ce matin, donc hier matin, du blocage de l'usine Saipol de 7, je me permets de vous faire parvenir la position de la direction de l'usine. En effet, Saipol tient à rappeler que le site transforme essentiellement des graines de colza issues de l'agriculture française non OGM et à destination du marché français. Les graines OGM importées après autorisation des autorités ne sont transformées que de façon marginale et ponctuelle afin de maintenir l'emploi et l'activité du site et sont exclusivement destinées à l'export. Fin du communiqué. C'était un secret de Polichinelle, mais depuis hier c'est officiel, un siècle après 2024, les Jeux Olympiques d'été vont revenir en France après trois échecs en 1992, 2008 et 2012. L'échec de 2012, où Paris avait perdu de deux voix au profit de Londres, fait désormais partie du passé, et il semble que les leçons des échecs précédents aient été retenues. Cependant, les JO, outre l'aspect prestigieux et l'événement planétaire qu'ils représentent, ont des défauts indéniables. Les JO coûtent en effet une fortune. Athènes avait un coût prévu à 5,3 milliards, on est passé à 11,1. Londres à 4,8, on a fini à 10,9. Rio est passé de 3 milliards à 4,6 milliards, sans compter Pékin qui est passé de 2,6 à 32 milliards. Quant aux JO de Sochi, qui étaient des JO d'hiver, ils ont coûté la somme faramineuse de 37 milliards d'euros à la parité euro-dollar de l'époque. L'obtention des Jeux Olympiques par Paris n'a donc pas que des avantages, même si les soutiens de Paris 2024 disent que 95% des infrastructures étant déjà construites, le coût de Paris 2024 n'explosera pas le budget prévisionnel, contrairement à ses prédécesseurs. D'autres disent même qu'ils peuvent donner un coup de boost à la croissance qui est en panne en France depuis maintenant 9 ans et le début de la crise des subprimes. Paris 2024, un coup de boost pour la France, c'est le débat du grand référendum du jour sur Sud Radio de 10h à 11h. Vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300 et voter sur sudradio.fr, Facebook et Twitter. Avec nous, Vincent Chaudel, expert sport du cabinet Wavestone et vice-président de Sport Citoyenneté. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Et Frédéric Vial, membre du collectif Non au JO 2024 à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Alors en apprenant l'obtention des JO, ce sera 2024 ou 2028, après on discute entre gens bien élevés de Paris et de Los Angeles, est-ce que vous avez crié « Ipipi pourra » Vincent Chaudel ou « Aïe 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 mon portefeuille »
Ipipi pourra de nature, oui, parce que j'aime le sport, j'aime les événements sportifs, j'aime le lien que le sport génère. Et on peut pas encore totalement faire sortir la bouteille de champagne parce que
on aura 2024 ou 2028.
Hein. Oui, mais toute l'organisation est tendue vers 2024. Clairement, on a déjà gagné les Jeux, mais on n'a pas encore gagné la compétition pour 2024. Faut faire attention à pas se réjouir trop vite. J'imagine que Monsieur Vial ne se réjouit pas tout court.
Pour vous, ce sera plutôt 2024 ou 28.
Je pense que ça va être réellement 2024. Là, on touche au but. Et effectivement, vous avez clairement énoncé la suite d'échecs auxquels on pourrait rajouter de 2004, puisque Lille était candidate.
Oui. Les Jeux Olympiques en France, hors de Paris, ça paraît quand même difficile à croire.
Oui, mais pour la France, si on rajoute 2004 à Lille et Annecy en 2018, on a quand même essuyé une suite d'échecs qui était assez important. Et les Jeux Olympiques, c'est pas qu'une rencontre de sport, c'est aussi de la géopolitique, c'est aussi le reflet du rayonnement d'un pays, et donc il est important à bien des égards qu'on gagne cette compétition.
Frédéric Vial, vous, je parie que vous n'avez pas crié Ipipi pourra, mais aïe 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 mon portefeuille.
En fait, la décision d'aujourd'hui n'était pas...
D'hier,
oui, on est déjà...
L'émission n'est pas enregistrée, nous sommes bien en direct.
Nous sommes bien en direct, en effet. La décision d'hier n'est véritablement pas une surprise, parce qu'en effet, le CIO joue sa survie dans cette affaire-là. Il y a tellement eu de défections, c'est-à-dire de villes qui ont dit qu'elles n'en voulaient pas.
Il y a eu Hambourg, il y a eu Budapest, il y a eu Madrid,
oui.
Rome.
Il y a eu Rome. Et
Boston.
Boston aussi, et que... il restait encore deux villes qui sont assez, on va dire le mot gentiment, irresponsables pour accepter ce genre de choses. Alors évidemment, lui, le CIO s'est dit, on va attribuer aux deux, comme ça au moins on limite les dégâts. Évidemment, il n'y a pas de quoi nécessairement se réjouir, puisque en effet, les JO vont être absolument ruineux, comme ils ont été à chaque fois. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas. Il y a un problème fondamental dans l'attribution des JO qui fait que de toute façon, ils sont ruineux. En dépit de tous les discours qu'on nous dit, qu'on nous sert actuellement, qu'il va y avoir des JO sobres, c'est le terme qui est utilisé actuellement dans la communication. Non. Pourquoi ? Parce que le CIO, c'est lui qui décide, que le CIO a un intérêt matériel particulier à décider de donner les jeux à ceux qui promettent et à ceux qui veulent faire les jeux les plus spectaculaires puisqu'ils gardent les droits de retransmission. Donc à partir de là, et dans la mesure où finalement quand il y a des dépassements, ce sont les pouvoirs publics
qui comblent,
eh bien il n'y a aucune raison que le CIO se gêne.
Mais alors justement Vincent Chaudel, le budget de Paris c'est 6,2 milliards d'euros. Est-ce que c'est un budget réaliste ? Quand on voit, j'ai donné les chiffres, toutes les explosions de budget qu'il y a eu. Alors le record pour les JO d'été, c'est Pékin qui avait fait un budget à 2,6 milliards et on est monté à 32.
Alors dans les budgets des candidatures ou dans le budget des organisations des Jeux, il y a deux dimensions. Il y a ce qui est lié à l'épreuve, aux épreuves elles-mêmes, et lié à l'aménagement et la transformation que l'on veut faire. Quand on fait Albertville ou quand on fait Sochi et que l'on veut aménager le territoire et tirer une ligne de TGV ou une ligne de train et autres, on se rend bien compte que ça va générer quelques argent. Quand on a l'ensemble des équipements qui sont déjà construits, ce qui est le cas de Paris, ou des équipements à construire de façon temporaire pour la compétition, rappelons que par exemple le dôme de basket et handball à Londres, c'était une structure faite par GL Event, l'entreprise française, temporaire de 12 000 places. Vous pouvez retourner sur Londres, elle n'existe plus aujourd'hui. Donc il y a des stades temporaires, on sait le monter, hein. On a vu la Formule E dans Paris, on a transformé
du côté de l'esplanade des Invalides.
Exactement, on a transformé de façon temporaire Paris en circuit.
J'explique, la Formule E, c'est la Formule 1 mais électrique.
Pardon, désolé. On a pu transformer Paris en circuit, ça a été vrai pendant quelques jours, et puis aujourd'hui on peut retourner et on n'y voit plus aucune trace. Donc il y a cette dimension d'infrastructure liée aux compétitions, et la réalité de ce dossier, qu'on soit pour ou contre, c'est qu'effectivement on va construire très peu d'équipements. Moi j'ai travaillé sur le dossier de la piscine de 2012 sur Plaine Commune, elle va être réellement réalisée.
La Plaine Saint-Denis
qui est au niveau... autour du Stade de France,
exactement. J'explique pour les non-parisiens.
Tout à fait, oui. Pour les sudistes, par exemple. Et bien, là, il va y avoir donc un stade de natation qui va être en partie en dur et en partie en temporaire, parce que il ne va pas, on n'aura pas besoin pour la population de tout cet équipement dans la durée. En revanche, pour le moment de la compétition, on a besoin d'accueillir une dizaine de milliers ou un peu plus de
spectateurs. Et pour vous, Frédéric Vial, 6,2 milliards le budget prévisionnel, est-ce qu'il est réaliste quand on voit les explosions de budget qu'il y a eu ? Parce qu'on a vendu ça à 6,2 milliards.
Oui, c'est ça. Alors, pour nous, enfin, en tous les cas, on constate qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes. Le budget n'est ni réaliste ni crédible. Il y a déjà des choses qui ne sont pas budgétées. Par exemple, la sécurité n'est pas budgétée, oui. Puisqu'on considère que de toute façon, la sécurité, il faudra l'assurer. Mais c'est vrai qu'il faudra assurer la sécurité. À Londres, c'était 1 milliard d'euros. On conçoit que dans la période qui est la nôtre, on ne peut pas mégoter là-dessus. Pourquoi est-ce que ce n'est pas intégré dans le budget ? Par ailleurs, il y a des choses. Alors, moi, j'entends, hein, il va y avoir des investissements, etc. Sauf que quand on nous dit les jeux vont être sobres, le problème, c'est que derrière, là, on s'aperçoit déjà qu'il y a des manipulations comptables. Par exemple, il y a un stade qui, enfin, pardon, pas un stade, une Arena 2, c'est le terme exact, qui va être construit sur le parc de Bercy.
Qui est en plus de l'ex-Bercy qui s'appelle maintenant Accor Hotel Arena, parce qu'avec le naming,
voilà. Eh bien, il va y en avoir une deuxième qui va être construite, qui est budgétée ailleurs. Et donc là, il y a un certain nombre d'argent là, qui va être mis sur ce truc qui va être déficitaire comme déjà le premier. qui va être fait très certainement en partenariat public-privé, c'est-à-dire sur l'entretien du public. Et tout ça n'est pas sur le budget des Jeux Olympiques. On nous dit aussi, c'est très bien parce que ça va accélérer le Grand Paris. Bon, vous savez, les infrastructures qui vont être construites, de transport, etc., qui sont prévues pour être terminées en 2030.
C'est une réalité.
C'est une réalité. En tous les cas, c'est lancé comme ça. Et là, on nous dit, hop, on va le faire en 2024. Et à partir de là, on passe un certain nombre de projets qui sont contestables et contestés. Je pense notamment au triangle de Gonesse. Alors, pour les sudistes, j'explique ce que c'est que ce truc. C'est
un... Au nord de Paris.
Au nord de Paris. Pour
vers
rejoindre...
Roissy.
Voilà. Il y a une ligne 17 qui va rejoindre l'aéroport qui est prévu là. Il y a un coude, un 500 millions, c'est-à-dire 5 stations qui vont être faites pour rejoindre le projet Europa City, qui est lourdement contesté parce qu'il est complètement contestable. C'est un truc où il va y avoir une piste de ski artificielle qui va être faite, enfin un truc complètement délirant. Bon, au nom des JO, quel est le lien avec les JO? C'est qu'on nous dit, bah on discute plus, il faut que ce soit terminé en 2024 et hop, on y va. Crac, 500 millions de plus. Donc, vous voyez, moi je veux bien croire tout ce qu'on me dit, mais il y a un moment donné, quand on regarde un petit peu précisément et qu'on s'aperçoit que il y a ce genre de bizarrerie comptable, on est plus qu'inquiet.
Donc, les bizarreries comptables, on en a vu il n'y a pas très longtemps avec le rapport de la Cour des comptes, soit dit en passant.
Et vous écoutez le grand référendum avec Philippe David qui vous pose cette question aujourd'hui jusqu'à 11h, Paris 2024. Un coup de boost, on parle des JO évidemment, un coup de boost pour la France. Eh bien, appelez-nous au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez, c'est très très important. Là, vous êtes tous concernés, vous pouvez aussi voter sur sudradio.fr et commenter sur Twitter et Facebook. A tout de suite sur Sud Radio.
Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David.
Un coup de boost pour la France, c'est la question du grand référendum ce matin et c'est jusqu'à 11h en direct avec Philippe David et ses invités sur Sud Radio. Alors évidemment, nous attendons vos avis, vos impressions. Vous pouvez venir en débattre en direct avec Philippe David si vous le souhaitez au 0826 300 300 et puis vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur Twitter, notre page Facebook ou sudradio.fr.
Oui, avec beaucoup beaucoup de commentaires sur cette question, on va commencer par les votes. Vous êtes pour le moment 100% à voter non, Paris 2024 ne sera pas un coup de boost pour la France. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec ces votes, n'hésitez pas à voter, vous pouvez le faire évoluer. Nous avons des commentaires aussi. Véniel qui nous écrit, alors pour répondre à la crise, bah, le gouvernement promet des jeux. Philippe qui
Panem
nous dit...
Panem et Cherchenses, comme disait
c'était
Jules
un peu
César
ça, la
du
référence.
Panem des jeux.
Merci Philippe.
On en est toujours là.
Un autre Philippe donc qui nous dit ça veut faire JO 2024, mais pour le moment pas capable d'assurer le fonctionnement du RERB et du RERA pour les simples parisiens. Alors pour les JO, bon, on peut toujours attendre. Danielle Simonet, alors elle exige un référendum. Non à Paris 2024, demande-t-elle. Et puis un dernier, Louis de Corbière, qui nous dit les épreuves d'aviron se dérouleront dans les métros de Paris pour les JO 2024. Avec une petite photo, je ne sais pas si vous avez suivi, mais les métros de Paris ont été totalement inondés. On voyait des cascades sur les escaliers. Donc voilà, il fait référence à ce mauvais épisode parisien. Et puis vous nous appelez aussi au 0826 300 300, et tout de suite on accueille Eric qui nous appelle d'Argenteuil. Bonjour Eric.
Bonjour Eric.
Oui, bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Moi la question que j'aurais pour les organisateurs, c'est s'ils sont si sûrs de la partie financière, est-ce que vous êtes prêts à la garantir sur vos fonds personnels? Parce que après vous allez nous laisser une belle facture. Et c'est qui va la payer derrière la belle facture? Parce qu'on aura la belle facture et vous ne serez pas engagé financièrement.
Ah mais c'est une vraie question. On va faire réagir nos invités, Eric d'Argenteuil, Vincent Chaudel. C'est vrai que s'ils sont si sûrs que ça, pourquoi est-ce qu'ils se prêtent pas, ils se portent pas caution?
Oui, on peut. Mais cette question-là, on peut la poser pour tous les politiques qui vont engager le denier public dans n'importe quel projet. La vérité, c'est que on n'accueille pas des JO, on n'est pas candidat à des JO pour gagner de l'argent. C'est pas une opération financière.
C'est une opération d'image.
En fait, ça peut être de l'image pour un pays ou pour une ville. Ça peut être une notion d'aménagement du territoire. Enfin, il peut y avoir différentes moteurs et motivations pour le faire. Quand on fait la Tour Eiffel...
C'était pour l'Expo Universal de 1889.
Oui. Est-ce qu'on l'a fait réellement?
Vous n'étiez pas encore expert port chez Wavestone.
Non, je ne crois pas. je crois que je n'étais même pas un projet. on le fait pas pour gagner de l'argent. Alors maintenant, on a cet équipement et on se demande comment on fait pour le rentabiliser, la Tour Eiffel. certes, mais l'impulsion du départ, c'est pas ça. Donc, si on veut ramener tout sur une notion de est-ce qu'on gagne de l'argent ou pas dessus, je suis pas sûr qu'on ferait des métros, je suis pas sûr qu'on ferait des aéroports, des hôpitaux ou autre. Donc, on est sur une notion politique et évidemment, dans la notion politique, il y a des choix, on est pour, on est contre, il y a des contre. Il y a toujours eu des contres. La question, c'est de se dire, sur un choix politique comme celui-là, est-ce qu'il faut, sur tous les choix politiques, demander l'avis aux gens et faire un référendum, ou est-ce qu'à un moment donné, on élit des personnes sur un programme ? Je crois que quand Emmanuel Macron s'est présenté, il était derrière la candidature. Donc le fait qu'il soit derrière la candidature aujourd'hui, c'est pas un secret ou une découverte.
Frédéric Vial, vous êtes membre du collectif Nous au JO 2024 à Paris. Vous avez entendu Éric Dargenteuil qui disent « Mais s'ils sont si sûrs que ça, qu'ils se portent caution ?» Sur leur denier personnel.
C'est vrai que si effectivement les élus qui prennent des décisions devaient se porter caution, peut-être qu'ils feraient un tout petit peu plus attention. Il y a quelques chances de ça. Ceci dit, sur le fond de ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait intéressant. C'est vrai que il y a normalement en démocratie un certain nombre d'engagements publics qui sont pris. C'est-à-dire qu'il y a des élus qui sont élus sur la base d'un programme. Madame Hidalgo a été élue en disant « je ne veux pas des Jeux Olympiques ». Ensuite, elle change d'avis. Alors évidemment, on va nous dire « il n'y a pas de vote, il n'y a pas de mandat impératif en démocratie, on peut changer d'avis ». Oui, sauf qu'on peut aussi considérer que ça s'appelle une trahison sur le plan politique, de se faire élire sur un programme et de faire autre chose. Alors on peut dire « elle a changé d'avis parce qu'elle a eu des arguments, etc. etc. ». Après, le problème, il est qu'on est sur des dépenses qui sont absolument considérables et on est sur l'idée de savoir si oui ou non on va avoir une collectivité publique qui risque d'être ruinée sur 10, 20 ou 30 ans, comme ça s'est passé pour Montréal.
Montréal, les Jeux de 76.
Sur un sujet structurant comme cela, il n'y a pas de raison, après tout.
Les JO de Montréal coûtaient infiniment moins cher que les JO aujourd'hui, ce qui est déjà beaucoup moins d'épreuves.
Ah oui, non, mais ça, de toute façon, les factures explosent tout le temps, donc c'est en augmentation constante. Donc, c'est vrai que sur des dépenses comme celle-là, on peut se dire, bon, bah, effectivement, on est sur des choses structurantes, il n'y a pas de raison sur quelque chose comme ça de ne pas demander leur avis aux populations concernées. Et puis, c'est vrai aussi, mais ça c'est quelque chose de beaucoup plus large qu'on constate en politique, on le constate, il y a une défiance vis-à-vis des politiques. Il y a une défiance réelle, puisqu'il a été question de l'élection du président. Le président a été élu, par exemple, avec une abstention considérable. Donc, bref, vous voyez, on est sur des fondamentaux comme ça, et quand on est sur des choix pareils, après tout, le fait de demander l'avis aux populations est quand même une bonne idée.
Oui, Vincent Chaudel.
Alors, je partage le point sur cette notion d'aller vers les populations. C'est-à-dire qu'en fait, on peut y aller de différentes manières. On peut y aller avec un référendum ou on peut y aller en développant un programme social et sociétal. C'est là-dessus qu'on pourra développer juste après, j'imagine.
Vous écoutez le grand référendum avec Philippe David qui vous pose cette question. Les Jeux pour Paris 2024, un coup de boost pour la France. Appelez-nous au 0826 300 300 et surtout, restez avec nous sur Sud Radio.
Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David.
Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est le grand référendum jusqu'à 11h. Un coup de boost pour la France. Alors vous, qu'en pensez-vous ? Votre avis nous intéresse, surtout n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300 et puis laissez vos commentaires aussi, sudradio.fr.
Oui, et vous votez à 93% non, les JO à Paris 2024, ce ne sera pas un coup de boost pour la France, avec des commentaires qui vont décidément dans le même sens. Hein. Homme de bonne volonté, H de bonne volonté si vous voulez, qui nous tweet, est-il sérieux, Emmanuel Macron, quand l'État qu'on dirige est criblé de dettes, d'organiser une fiesta à 6,5 milliards d'euros pour se faire mousser. La chouette surenchérie, la corruption, les pauvres expulsés, la hausse des loyers, les équipements inadaptés, les nuisances, les dépenses, JO 2024 et d'ailleurs 2028, non merci. Alors une autre qui se moque des Parisiens, c'est A. Boisse qui nous dit « J'adore les Parisiens qui se réjouissent des JO 2024, les mêmes qui se plaindront les 7 prochaines années du bordel des travaux, changez rien les Parisiens ». Voilà, il faut toujours un petit pic contre les Parisiens de toute façon.
Oui, ça c'est un sport national. Oui,
c'est un sport national
en France.
Et pour finir, joliment, tristement peut-être aussi, Eric Alpha nous dit la France c'est comme le Titanic, il faut que l'orchestre joue pendant qu'elle coule.
Avec nous Vincent Chaudel, expert sport du cabinet Wavestone et vice-président de Sport Citoyenneté, et Frédéric Vial, membre du collectif No JO 2024 à Paris. Vous avez entendu les commentaires, Vincent Chaudel, quand on voit les restrictions budgétaires en cours, parce que là, Gérald Darmanin, il va chercher des économies partout, 850 millions dans la défense, etc. Est-ce qu'on avait les moyens de faire les Jeux Olympiques ?
J'ai entendu beaucoup de commentaires, notamment le fait que les Parisiens vont râler à cause des travaux, mais je crois que les travaux qu'ils subissent actuellement n'ont aucun lien avec Paris 2024.
Le pire drame à Paris pour le trafic, c'est pas les travaux, c'est la fermeture des voies sur berge.
Exactement. Oh, oui. Et ce qui n'a rien à voir avec Paris 2024,
on est bien d'accord.
Voilà.
Mais alors, on imagine ce que ça va être quand il va y avoir le monde entier à Paris, vu les restrictions de circulation. Ça va être une horreur, à mon avis. Alors,
malheureusement, je pense que ce genre de projet, il faut l'imaginer sur le temps long. Les Jeux Olympiques à Londres ont permis de réorganiser, de réinvestir tout l'est de Londres qui était en zone friche, en fait. On parle de Paris, mais finalement, on devrait parler d'Île-de-France. On ne devrait pas parler que de Paris, puisque ces jeux vont permettre de repenser et de désenclaver ou d'entretenir, notamment la Seine-Saint-Denis. On peut parler de Gonesse, je pense que ce n'est pas Paris 2024 qui va porter un projet de ski à Gonesse. Pour autant, c'est un projet qui est réfléchi en dehors des jeux, dans le développement. Après, on peut le contester, j'entends, mais c'est pas l'organisation Paris 2024 qui a pensé à cette option-là. Le sujet, c'est vraiment de réfléchir à ce que l'on peut faire de la Seine-Saint-Denis sur le temps long. Donc, il va y avoir des contraintes, des désagréments, c'est évident. Quelles sont les villes qui ont accueilli un tramway et se sont transformées, qui n'ont pas vécu 1, 2 ou 3 ans de travaux et c'est pénible pour les commerçants, pour les citoyens, etc. Oui, c'est vrai, il ne faut pas le nier.
Frédéric Vial, vous avez entendu, vu les restrictions budgétaires en cours, ce que disent notamment les commentaires, entre autres sur Twitter, est-ce qu'on avait les moyens de faire les Jeux Olympiques ?
En fait, c'est toujours la question de savoir effectivement comment on utilise l'argent public. Parce que on peut effectivement considérer que l'investissement, c'est intéressant en soi. Et qu'il n'y a pas de problème pour investir sur le long terme. Le problème, c'est effectivement de savoir comment et à quelles conditions. Tout à l'heure, lorsque j'ai parlé du triangle de Gonesse, c'est pour dire qu'il y a un problème avec cette histoire de triangle de Gonesse. Ce problème, il devrait normalement donner lieu à un certain nombre de décisions politique et un certain nombre de débats. Là, les débats sont complètement squeezés parce qu'il s'agit de terminer à temps 2024, c'est-à-dire c'est très proche en termes de réalisation d'infrastructures. Il s'agit de terminer à temps et donc on ne réfléchit plus, on fonce. Et c'est ça les problèmes qu'il y a autour de ce genre de choses. C'est-à-dire que les investissements bons ou mauvais, quel que soit leur coût et quelles que soient leurs conséquences, on y va parce que de toute façon, à partir de maintenant, il n'y a plus le choix. Et ça va être, et ça a déjà commencé, le rouleau compresseur idéologique qui va nous dire les JO arrivent, on ne peut pas faire autrement que de claquer, effectivement, le terme est faible, beaucoup d'argent pour faire tout et n'importe quoi. Après, on va nous expliquer qu'il n'y a pas d'argent dans les budgets, qu'il n'y a pas d'argent dans les hôpitaux, qu'il n'y a pas d'argent dans les crèches, etc., etc. Vous voyez, c'est pour ça tout à l'heure que je parlais aussi de démocratie. Est-ce que c'est ça le problème de la démocratie ?
À Hambourg, ça a été refusé par référendum.
Oui, c'est-à-dire à un moment donné, il y a un débat public, il se passe un certain nombre de débats. Là, quel débat il y a ? Vous êtes très aimable d'inviter, on discute ici sur la radio.
Sur Sud Radio, on n'a pas de tabou, on invite tout le monde.
C'est très bien. Mais c'est pas du tout le cas de ce qui se passe autrement. C'est-à-dire qu'il y a ce truc qui tombe là, et puis il y a rien à négocier. C'est comme ça, on y va, on fonce, et on fait tout, et on fait tout n'importe quoi. Par rapport, là tout à l'heure, on a parlé aussi des infrastructures sportives. Par exemple, l'histoire de la piscine en Seine-Saint-Denis. Bon, on nous dit il va y avoir une piscine en Seine-Saint-Denis, c'est très bien. D'autant plus que les gosses en Seine-Saint-Denis, il y en a un sur deux qui sait pas nager, ce qui est un scandale en soi. Donc, il va y avoir une piscine, les enfants vont pouvoir aller nager. Parfait. Sauf que ça va être une piscine à 150 millions d'euros, c'est-à-dire une piscine olympique absolument considérable qui, pour être utilisée, dès qu'on appuiera sur l'interrupteur pour allumer la lumière, il va falloir mettre 10 000 euros. Et ensuite, on nous dit, les enfants vont pouvoir aller nager. Mais bien sûr que non. Ce qu'il aurait fallu plus probablement, et en tous les cas ça méritait qu'on en discute, c'est d'avoir des infrastructures plus petites pour que les enfants, pour le même prix, pour que les enfants puissent y aller. Vous voyez, tout ça ce sont des choix politiques qui ne sont pas faits.
On va faire un tour du côté du standard, puisque vous nous appelez au 0826 300 300. Tout de suite, on accueille Yannick qui nous appelle de Martigues. Bonjour Yannick.
Bonjour Yannick.
Oui, bonjour à tous. Donc, moi je suis le débat avec intérêt, parce qu'en fait...
Merci.
Pour moi, avec une fois de plus, on en arrive à une lubie d'hommes politiques. En fait, ils ont décrété qu'ils voulaient les Jeux Olympiques. Et puis, s'ils doivent endetter la France de 6 à 10 milliards d'euros, plus les coûts que ça engendrera une fois les Jeux Olympiques finis pour entretenir l'ensemble des structures, ça leur pose aucun souci. En fait, on en arrive toujours au même résultat. Les hommes politiques sont complètement déconnectés de la réalité. Ils nous disent qu'on n'a plus d'argent nulle part, mais par contre, pour claquer 6 à 10 milliards pour faire plaisir à Hidalgo et une poignée de personnes pour avoir des Jeux Olympiques, ben ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à créer des emplois. Je trouve que ça devient inadmissible. Quoi. On a plus de cohérence et on n'a plus d'argent pour ce qui est important, les soins, la police, les pompiers, le sauvetage, des trucs comme ça. Par contre, on a de l'argent pour faire des jeux. Et on a de l'argent pour créer des emplois fictifs, comme par exemple pour Ségolène Royal. On a plein de trucs comme ça, mais on n'a plus rien. On n'a plus rien de cohérent, en fait. Les hommes politiques sont déconnectés de la réalité, pour moi.
Mais une question, Yannick, je vais être pas politiquement correct, sachant que les Jeux Olympiques vont être à 95% à Paris, parce que les épreuves de mer vont se passer à La Rochelle, de mémoire.
Non, à Marseille.
À Marseille, pardon. Au départ, c'était La Rochelle, mais après, c'était Marseille.
Ça
se rapproche de Martigues. Et est-ce que ce serait pas logique, finalement, que les 6 milliards, ce soit que les Franciliens qui les payent?
Le problème, c'est qu'en fait, on sait très bien comment ça se passait. Les 6 à 10 milliards, c'est la France qui va les payer, point. Parce que même si François Hollande est persuadé que quand c'est l'État qui paye, ça revient pas cher, il a oublié que l'État n'a pas d'argent. L'argent, l'argent des contribuables. Donc les 6 à 10 milliards, c'est tous les Français qui vont les payer. Et malheureusement, il n'y en a qu'une minorité qui sont intéressés par les Jeux Olympiques et une majorité qui s'en foutent royalement et qui en ont marre de payer à blanc.
Merci beaucoup Yannick de Martigues. On va faire réagir Vincent Chaudel. Vous avez entendu Yannick de Martigues qui dit on n'a pas d'argent pour le sauvetage, pour les hôpitaux, ceci, cela. On en a pour les Jeux Olympiques. Mais est-ce que finalement les Jeux Olympiques, c'est pas quand même pour le pays moins bien qu'une, par exemple, une Coupe du Monde ou qu'un Euro de football? Parce que là, on aménage tout le territoire. Là, à 95%, tout va se passer à Paris-Île-de-France.
Oui, la majorité du terrain de jeu des Jeux Olympiques sera en Île-de-France. Mais et on peut discuter Jeux Olympiques versus une Coupe du Monde de football ou de rugby.
D'ailleurs, rappelons que ça fait 19 ans aujourd'hui qu'on a gagné la Coupe du Monde. C'est juste pour nous rappeler un bon souvenir.
Et et qu'avant 2024, on aura peut-être la Coupe du Monde de rugby en 2023. Mais bon, ça,
c'est
encore un autre débat. Ce sera l'occasion de se recroiser, j'imagine.
Bah, avec grand plaisir, vous en doutez.
Évidemment. Non, plus sérieusement, enfin, c'était sérieux d'ailleurs. Si les questions se posent aujourd'hui à Paris, si elles se sont posées à Hambourg, si elles se sont posées à Boston, si elles se sont posées à Rome, à Budapest, c'est-à-dire si les populations ont refusé, c'est que l'air du temps a changé. Quand je dis l'air du temps a changé, quand Jacques Chirac avait décidé de postuler, de candidater...
Pour 92.
C'était sa propre décision.
D'ailleurs, il avait fait une promesse extraordinaire qu'on pourrait se baigner dans la Seine.
Oui. Mais comme lui, il peut... plus se baigner actuellement.
Oui, mais enfin, quand on voit l'état de la Seine, on n'a pas tellement envie de se baigner, soit dit en passant.
Sérieusement, il y a un vrai travail à faire sur la Seine. C'est un vrai sujet qui n'est pas rigolo du tout. Non, encore une fois, plus sérieusement, si on revient sur le sujet de l'ère du temps, les citoyens dans le monde entier ont... certainement grâce à l'information, les médias, les réseaux sociaux ont pris l'habitude de prendre position sur de nombreux sujets, certains diraient même sur tout et n'importe quoi, et la question du choix politique, où avant on avait des politiques qui avaient une vision politique et qui voulaient entraîner le pays dans un sens ou dans un autre, quand François Mitterrand a décidé de faire la pyramide du Louvre, quand il a décidé de faire la grande bibliothèque, ou l'opéra Bastille, quelque part, il n'y a pas eu de référendum. C'est son choix, il a une vision. On peut le regretter, on peut se dire... C'est un peu monarchique. C'était une période où on a pu aller dans des endroits où on n'aurait pas dû aller, etc. Il y avait des visions. Et si je reprends l'exemple de la Tour Eiffel, parce qu'en miroir, je pourrais prendre la Tour Triangle, si on avait dit... aux habitants de Paris, vous êtes pour ou contre à ce moment-là. Elle a fait beaucoup de débats au moment où, où elle s'est installée. On ne l'aurait pas fait. Et aujourd'hui, la Tour Eiffel, c'est un emblème de Paris. La Tour Triangle, on en parle, on demande l'avis aux gens, on ne la fait pas. Voilà, donc ça pose la question du politique et de la vision politique. Je ne dis pas que tout le monde a raison d'être pour ou contre. Je dis que là, on arrive dans une période où cette question-là se pose.
Frédéric Vial, vous avez entendu Yannick nous appeler de Marty, qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, pour les secours, etc. Est-ce que quand même, Yannick est à Martigues, Eric était à Argenteuil, Argenteuil c'est l'Île-de-France, une Coupe du Monde ça a quand même pas un intérêt de foot ou de rugby, ou un euro par exemple de foot comme l'an dernier, ça a pas l'intérêt de faire l'aménagement du territoire et pas d'une seule région.
Vous voulez dire les Jeux Olympiques?
Oui, ça a plus intérêt de faire une Coupe du Monde par exemple parce qu'on aménage tout le territoire, alors que les Jeux Olympiques ça ne se passe que dans une seule ville, une seule région.
Là, en l'occurrence, les Jeux Olympiques, effectivement, il va y avoir des épreuves un petit peu partout. Hein. Il y a pas que Paris.
Les grands sports, c'est-à-dire athlétisme, natation et gymnastique, ce sera tout à Paris.
Oui, globalement, ça va être là.
Parce qu'après, maintenant, on a fait tellement de sports confidentiels aux Jeux Olympiques.
Mais la question qui a été posée par l'auditeur, en fait, elle est fondamentale et elle est celle effectivement du rapport du politique avec le reste de la société. C'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation où les politiques ne peuvent plus et ne devraient plus imaginer pouvoir décider de grands projets complètement contestés et totalement contestables, en tous les cas décider de grands projets sans au minimum en référer à leur mandant. Cette espèce d'idée selon laquelle on vote une fois tous les 5 ans, on laisse les clés et après on fait plus rien, c'est quelque chose qui ne passe plus du tout dans la société. C'est terminé ce genre de choses. Donc maintenant quand on nous dit on va faire ça pour votre bien et dormez braves gens, ça ne marche plus effectivement. Alors maintenant, la question, elle se pose et elle est fondamentale. Oui, comment se fait-il, là encore, on vient de voir passer le gouvernement Philippe qui nous dit qu'il va y avoir une baisse des impôts de 11 milliards et en même temps des économies de dépenses de 4. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une réduction de la voilure dans tous les domaines de la dépense publique absolument considérable dans les années qui viennent. Et en effet, on trouve quand même de l'argent pour faire des jeux qui vont durer 15 jours ou un mois. Il y a quelque chose là qui est totalement incohérent. Et bien entendu, il est normal que les populations se disent « Mais enfin, pour qui on nous prend ?» D'un côté, de nous expliquer qu'il y a de l'argent pour rien, et de l'autre côté, qu'il y a suffisamment d'argent pour faire quelque chose qui relève d'une opération de prestige. Et d'ailleurs, qui est contestable en elle-même. Hein, le prestige en question, on peut revenir dessus si vous voulez. Donc effectivement, ces Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'assez symptomatique de cette façon de faire du politique qui passe par des grands projets inutiles et imposés.
Allez, vous écoutez le grand référendum avec Philippe David. C'est la dernière ligne droite hein, jusqu'à 11h. Si vous voulez nous appeler ou voter, c'est le moment au 0826 300 300. Je rappelle la question, on parle des JO Paris 2024. Un coup de boost pour la France, ben voilà, n'hésitez pas à réagir. Vous pouvez aussi commenter sur Twitter et Facebook. Et surtout, vous restez avec nous. À tout de suite.
Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David.
Et la question du jour aujourd'hui, un coup de boost pour la France. Qu'en pensez-vous? Vous avez jusqu'à 11h pour y répondre et intervenir sur l'antenne de Sud Radio si vous le souhaitez, avec Philippe David et ses invités. 0826 300 300 et puis évidemment, comme d'habitude, vous pouvez également laisser vos messages, vos commentaires ou voter, pourquoi pas, sur sudradio.fr.
Et vous votez en effet à 95% non, de nouveau non, Paris 2024, les JO, ce n'est pas un coup de boost pour la France, sachant qu'on était à 93, donc finalement le non a gagner des voix, alors qu'on était parti à 100% quand même.
Mais vous connaissez la formule, hein. The yes needs the no to win against the no.
C'est ça, un petit peu, ouais, une petite proportion.
Une Rotarinade.
mais en anglais. Et puis on a des commentaires sur Twitter qui sont toujours résolument contre les JO 2024. On a Isabelle qui nous dit « L'argent serait quand même plus utile dans la création de crèches, dans la réhabilitation des écoles, des hôpitaux, etc. » Et puis encore un tweet de Daniel Simonet. Alors je le rappelle parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure Danielle Simonet, c'est une politique, hein, une coordinatrice du parti de gauche et porte-parole de la France insoumise. Donc voilà, elle ne parle pas élue, oui tout à fait, de Paris. Elle tweet, on nous dit que les Jeux Olympiques vont permettre d'investir dans les équipements sportifs, mais pourquoi attendre alors les JO pour ça ?
Oui. Vincent Chaudel, je rappelle que vous êtes expert sport du cabinet Wavestone et vice-président de Sport Citoyenneté.
En fait, il faut toujours des éléments déclencheurs. Malheureusement,
c'est grâce à la Coupe du Monde de foot qu'on a fait le Stade de France.
Et oui, en fait, sa remarque elle est juste, mais factuellement, quand il n'y a pas d'éléments déclencheurs, on se rend compte qu'il y a des projets qui n'existent pas, qui ne se mettent pas en œuvre, et on a souvent besoin de ce genre de projets. La force des Jeux Olympiques ou d'une Coupe du Monde, c'est d'organiser finalement un peu comme un plan Marshall où on engage l'État et l'État soutient la commande avec des entreprises dans le BTP pour développer des infrastructures et autres. Donc,
vous voulez réagir au tweet de Danielle Simonet ? Frédéric Viel, vous êtes membre du collectif Non au JO Paris 2020, Non au JO 2024 à Paris, pardon.
Ben c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais comment se fait-il qu'il y aurait besoin de ce genre de boost ? Enfin, il faut savoir pourquoi est-ce que après tout il y a des élections ? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin ? Il y aurait besoin de cela ? Enfin, tout ça.
Besoin, parce que sinon ça se fait pas.
Oui, mais alors ça fait cher du coup de boost. Enfin, ça fait quand même un coup de boost avec des dépassements absolument considérables. Et c'est vrai que la question posée, le tweet juste avant qui consistait à dire est-ce qu'on a de l'argent pour les services de proximité ? Est-ce qu'on a de l'argent pour les crèches ? Qui est un vrai problème à Paris. Enfin, toutes les personnes qui peuvent avoir des enfants à Paris.
Avoir une place en crèche à Paris,
c'est du sport, oui.
C'est trouver une oasis dans le Sahara.
En Ile-de-France, en général.
En Ile-de-France, d'une manière générale, pas seulement Paris. Effectivement, c'est un peu du sport.
Allez, vous nous appelez au 0826 300 300. On accueille Jules qui nous appelle de Pauillac. Bonjour, Jules.
Bonjour, Jules.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Mais écoutez, moi, je vais faire partie des optimistes. Je vais dire que quand même, je pense que derrière, il y a des puissants lobbies qui poussent derrière les politiques et que ça fera très certainement des heureux. Moi, je pense que les principaux heureux, ça va être Bouygues, Vinci, Eiffage et compagnie.
D'accord. C'est-à-dire les boîtes de BTP.
Un optimiste pervers.
Pas du tout. Un optimiste réaliste. Voilà. C'est pas la fête du sport, c'est la fête des sponsors. On est bien d'accord avec ça.
Mais ça arrive, un sport et sponsor. Hein.
Alors, moi, j'aimerais tant que je vous tiens, parce qu'on parle souvent de lobbying, de lobbyistes. J'aimerais qu'on me traduise le mot en français.
Ah bah alors, je vais vous dire, le traduire, il est resté en version
influenceur.
Originale. Influenceur, mais ça vient du terme lobby. Lobby c'est l'endroit où on attend dans les couloirs, parce que, en fait, ce genre de conversation à l'époque se faisait pas dans les bureaux, mais dans les couloirs.
Groupe de pression, si on veut.
Alors,
oui, Jules.
Est-ce que je peux vous donner ma version, ma traduction à moi ?
Ah, bah, allez-y.
Voilà, alors, pour moi, le lobbying, c'est ni plus ni moins que de la corruption, et les lobbyistes, les corrupteurs.
Eh bien écoutez Jules, c'est votre droit de le penser, Jules de Pauillac, merci beaucoup. Vincent Chaudel, vous voulez réagir à ce que dit Jules ?
Non mais c'est très intéressant parce que c'est l'illustration de toute la différence qu'il y a entre le monde anglo-saxon et le monde latin. C'est-à-dire que les anglo-saxons intègrent le lobbying comme un canal du business classique et les latins voient le lobbying comme de la corruption.
Et pour vous ?
De fait, c'est le lobbying, en réalité, c'est une corruption institutionnelle, fondamentale.
Et légale.
Et absolument légale. C'est-à-dire que le lobbying n'est pas seulement ou très marginalement l'enveloppe sous la table. Mais là, vous pouvez me réinviter pendant une heure. Là, je vous tiens le crachoir sans aucun problème. puisque par ailleurs, je travaille sur les questions d'Union européenne. C'est pas seulement l'enveloppe sous la table, c'est le fait d'influencer à tous les niveaux, de faire partie des mêmes groupes sociologiques, le fait d'être copain, le fait de se rapprocher, le fait de fournir des études qui fait qu'en amont et avant tout débat, les choses sont déjà ficelées. Et donc, il y a dans le lobbying quelque chose de redoutable et qui est un court-circuit de la démocratie. Et là-dessus, puisque on parle de ça, je voudrais élargir la question, puisqu'il nous reste encore quelques
7 minutes.
En parlant de lobbying, est-ce qu'on sait par exemple que les Jeux Olympiques donnent l'occasion de voter, le CIO exige que soit voté ce qu'on appelle une loi olympique. C'est comme ça à chaque fois. C'est prévu dans le troisième dossier de candidature. Une loi olympique qui va, avant les JO et le temps des JO, suspendre les règles normales du droit social. Alors de la fiscalité, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de paiement d'impôt direct, sauf la TVA, mais le reste non. Le droit social est entre parenthèses, et ça c'est quelque chose de très important pour le CIO. Pourquoi ? Parce qu'il ambitionne d'embaucher quelque chose comme 32 000 bénévoles. Et il faudrait surtout pas qu'il y en ait un ou deux qui disent « mais attendez, moi j'ai fait un travail considérable, je veux être payé ». Non, non. Et donc ça veut dire que là, il va falloir suspendre les règles du droit social, les règles du droit environnemental.
C'était déjà le cas pour la Coupe du Monde de football et l'Euro de football. Hein.
Ah bah, de toute façon, ça en plus, ça l'est à chaque fois. Et bah oui, mais c'est pas une raison pour s'habituer. Et c'est vrai que, et c'est vrai que dans la loi aujourd'hui, la France s'est transformée en paradis fiscal spécialement pour le CIO ou pour l'Euro de foot en l'occurrence, puisque ça a été fait à ce moment, à ce moment-là.
L'an dernier.
Et les droits de la propriété intellectuelle aussi. Alors là, on n'en sait rien. On regarde ce qui s'est passé, par exemple, à Londres. À Londres a été mise en place dans les rues de Londres et aux endroits où se déroulaient les épreuves, une espèce de police de la propriété intellectuelle qui contrôlait si les gens sur place avaient les canettes, les chaussures, les t-shirts.
Du bon sponsor.
Du bon sponsor. Exactement. Là, quand même, c'est
C'est vrai que ça va quand même assez loin. On nous appelle beaucoup, ça fait beaucoup réagir. Hein.
Oui, et on...
C'est un sprint au 0826-300-300.
C'est ça. Et on accueille Patrick qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Patrick.
Bonjour Patrick.
Oui, bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour, bienvenue sur Sud Radio.
Voilà, je voulais mettre en avant un petit peu la communication du CIO. Je pense qu'il serait quand même plus judicieux de faire une communication sur l'après-JO, c'est-à-dire sur toutes les infrastructures qui vont rester, sur quoi elles vont servir, combien d'années, etc. Parce que c'est ce que je veux dire, c'est que les Jeux Olympiques durent à peu près 15 jours et que les infrastructures vont durer à vie. Donc il serait, moi, à mon avis, plus judicieux de mettre en avant ces infrastructures qui vont être nouvelles, améliorées, rénovées, etc. pour éviter toute polémique et de dépenses publiques.
Alors Patrick, il y a souvent dans les jeux d'hiver des structures qui restent et qui ne servent pratiquement jamais. On pense en général aux pistes de bobsleigh et aux tremplins de ski qui sont pratiqués par une infime minorité de la population. Merci beaucoup Patrick. Je vais réagir à nos invités. Vincent Chaudel, vous avez entendu Patrick, il dit qu'il faudrait se poser des questions. Et ce que disait Jules avant, ça va quand même faire des heureux. Il a dit Bouygues, Vinci, Eiffage, etc.
Oui, mais bon, au niveau de Sport et Solidarité, nous on travaille avec Paris 2024 sur le sujet de l'héritage citoyen. De ces jeux et donc c'est clairement au centre des préoccupations. Est-ce que les jeux vont être juste 15 jours de fête pour les sponsors ou est-ce qu'ils vont permettre aux franciliens de mieux se déplacer? Est-ce qu'on va faire à cette occasion un big bang pour le handicap? Est-ce que voilà,
il faut rappeler que quand on gagne les Jeux Olympiques, on gagne aussi les Jeux Paralympiques.
Exactement. Et au-delà des compétiteurs, il y a aussi l'accueil du public handicapé ou avec des problèmes de mobilité. Donc il y a beaucoup d'efforts, il y a prévu beaucoup d'efforts par rapport à cela, et il y aura un héritage par rapport à ça. Alors après, on peut toujours contester, la quantité de l'héritage, et deux, l'obligation de passer sur ce genre de projet pour enclencher cela, mais... On est un peu dans l'œuf et la poule.
Frédéric Vial, vous avez entendu Patrick qui dit qu'il faudrait se poser la question de ce que vont devenir les infrastructures. Et ce que disait Jules, ça va faire des heureux. Il a dit ben, Bouygues, Vinci, Eiffage.
Alors, le comité d'organisation nous dit aussi qu'il va y avoir, par exemple, des logements sociaux qui vont être construits parce qu'il va y avoir un village olympique qui va ensuite être transformé en logements sociaux.
Un village média.
Alors,
également.
Voilà, un village média. Moi, je vous invite à regarder ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire qu'on va construire, dans un premier temps... des bâtiments qui vont avoir une destination et qu'ensuite il va falloir les changer la destination pour les transformer en logements sociaux. Ce qui veut dire qu'au final, pour avoir au final un équipement, logement social, on le paiera deux fois. Et donc, ça revient toujours à la même question qui est de dire, mais enfin, est-ce qu'il y a nécessité d'avoir ces Jeux Olympiques et ces dépenses somptuaires pour faire ce dont on a besoin en matière de logements sociaux, par exemple, puisqu'effectivement, comme partout, il en manque. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui se posent. L'auditeur aussi posait la question, les infrastructures dans l'avenir. Le parc de Bercy, là, l'Arena 2 qui va être construit sur le parc de Bercy dans le 12e, je le rappelle, hein, pour les gens qui se promènent dans le coin, ça va être amusant.
Ça surtout va être... à la sortie de l'autoroute A4 pour aller vers Paris-Centre.
Oui. Alors, surtout, voilà, donc, il va y avoir forcément un partenariat public-privé. La première Arena... est déjà déficitaire, la deuxième le sera nécessairement, qui va combler le déficit dans le cadre du partenariat public-privé ? Le public, puisque le partenariat public-privé, c'est socialisation.
Comme pour le Stade de France. Hein.
Voilà. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas mises sur le budget, mais dont on hérite ensuite. Et là, effectivement, il n'est pas question d'une infrastructure qui va durer un an, deux ans ou un truc dégonflable. Il est quelque chose dont on va falloir entretenir
publiquement. 50 ans, 60 ans.
Voilà. Et donc, nos enfants et nos petits-enfants, peut-être pas les petits-enfants quand même, j'espère, vont devoir assez longtemps entretenir ce genre de choses.
Pour le partenariat public-privé, c'est pas tout à fait exact. Si on prend le cas de l'accord Hôtel Arena, dans l'organisation POPB, elle faisait générer 20 millions d'euros à peu près par an. Là, elle termine son premier exercice qui va tutoyer les 40 millions d'euros. Donc, on voit que la rénovation a changé l'économie, mais il faudra là aussi le juger ce mécanisme dans la durée. Le problème, c'est qu'on est sur finalement une notion de temps, le temps long et le temps court. Les problèmes, on va les gérer dans le temps court et les bénéfices, on les aura dans le temps long.
Dernière question, très très courte. Ça va être Paris 2024 ou 2028 pour vous, Vincent Chaudel ?
Je vais dire, c'est combien le pourcentage là ?
92%.
À 92%, non. Ça sera 2024.
Et pour vous, Frédéric Vial, oui, sera 2024. Vous êtes contre 2028 aussi de toute façon.
Oui, de toute façon, mais c'est, le suspense est nul. Hein. C'est-à-dire, ce sera 2024.
D'accord.
Oui, oui. C'est toutes les chances que ce soit ça.
Merci beaucoup, Frédéric Vial, membre du collectif Non au JO 2024 à Paris. Merci beaucoup, Vincent Chaudel, expert sport du cabinet Wavestone et vice-président de Sport Citoyenneté. Verdict, ma chère Clémence.
On l'a dit, vous votez à 92%. Non, Paris 2024, ce ne sera pas un coup de boost pour la France. À tout de suite sur Sud Radio.